Une. Merci au Seigneur de pouvoir partager la parole ce matin au milieu de vous. Et je vais vous conduire en fait dans les premiers temps du ministère de Jésus-Christ sur cette terre. Et vous verrez, ce sera au travers du récit de l'évangile de Jean. Et pour vous donner on va tout de suite après ouvrir nos Bibles, mais pour vous donner une petite introduction. L'histoire, en fait, débute avec le témoignage de Jean le Baptiste. Et il y a des religieux qui viennent vers Jean le Baptiste au milieu du désert. Hein, il était en train de baptiser. Et pour lui demander, mais en fait, qui es-tu? Et dans cette simple question, on voit que ces hommes, ces religieux, qui étaient les représentants de l'autorité officielle, étaient dérangés par le travail de Jean le Baptiste. Toi, qui es-tu? Hein? Qui es-tu pour faire ce que tu fais là? Pourquoi est-ce que tu te caches là au fond de ton désert, auprès du Jourdain? Et la réponse de Jean le Baptiste à cette question est, il reste en fait très discret quant à sa fonction. Il dit qu'il n'est ni le Messie, ni Élie, ni un prophète. Et alors, les pharisiens vont lui reposer la question, mais alors, qui es-tu, si tu es ni ceci, ni cela, ni cela? Et on va voir la réponse dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er, au verset 23. Jean 1, verset 23, voici la réponse de Jean le Baptiste. « Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Esaïe le prophète. » Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens, et ils lui firent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit, « Moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. » Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Donc, qui était Jean? Il donne une réponse très discrète quant à sa fonction. « Je suis celui qui baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. » Au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. Jean le Baptiste ne connaissait pas encore Jésus, il ne savait pas encore qui était le Messie. Il l'avait certainement compris par révélation, Dieu lui avait certainement parlé que bientôt le Messie allait arriver, que même il était déjà sur la terre d'Israël, et il dit une annonce prophétique en fait, hein, quelqu'un est au milieu de vous et vous ne le connaissez pas. Dieu va très rapidement en fait se révéler, parce qu'au verset 29, nous voyons que qui arrive le lendemain, je lis, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et dit, voici l'agneau de Dieu. Le lendemain. Hein? C'est très rapide. Jean le Baptiste dit le jour d'avant, il y a quelqu'un parmi vous, vous ne connaissez pas cette personne, mais celui-ci, il va baptiser d'esprit. Et le lendemain, Jean le Baptiste arrive. Donc, des fois, l'intervention de Dieu, elle se fait rapidement. Parfois, ça prend du temps, mais parfois, l'intervention de Dieu, elle est là, elle est toute proche. Et des fois, dans nos vies, c'est la même chose. Parfois, on prie, et puis pour que la parole, pour que la prophétie, ou que la promesse, ou que simplement la demande qu'on fait à notre Seigneur, ben, des fois, ça va prendre du temps avant qu'elle se réalise. Mais des fois, on a des réponses dans nos prières qui sont rapides aussi. Hein. Des fois, c'est le lendemain, et des fois, c'est le jour même que le Seigneur nous répond, gloire à Dieu. Et là, ça se passe très rapidement, le lendemain. Je relis le verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » C'est celui dont j'ai dit après moi, « Viens un homme qui m'a précédé, car il était avant moi, je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Je ne le connaissais pas. Hein? Donc Jean le Baptiste ne le connaissait pas, il ne savait pas encore que c'était lui le Messie. Mais au moment où il l'a rencontré, il a dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Et d'ailleurs, dans sa déclaration, on voit qu'il reconnaît vraiment qu'il est Dieu, que Jésus est Dieu. « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Il n'y a que Dieu qui peut ôter le péché du monde. Donc, dans cette déclaration, déjà, Jean le Baptiste proclame que le Messie est Dieu. Et puis, on le voit encore aussi dans le verset 30, « C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. » Après moi vient un homme qui m'a précédé. Si on pense sur un plan humain, on se dit, mais Jean le Baptiste, le pauvre, là, il a pris un peu trop le soleil du désert sur la tête. Hein? Comment quelqu'un qui vient après lui peut l'avoir précédé? Il l'a précédé. En effet, Jésus a précédé Jean le Baptiste parce que Jésus était de toute éternité. Jésus était là bien avant le commencement de toute chose, parce que Jésus était Dieu. Donc s'il s'est incarné pour un temps sur cette terre, Jean le Baptiste reconnaissait déjà que Jésus était avant les temps anciens. Amen. Le lendemain, et nous allons voir au travers du message que je vais vous partager ce matin, qu'il y a vraiment toute une chronologie, il y a toute une suite de jours dans la manière dont l'apôtre Jean nous présente le début du récit du Seigneur, et vous verrez que ce n'est pas pour rien. Il nous est donné l'indication ici du lendemain, quand Jésus vient à la rencontre de Jean le Baptiste. Donc, nous sommes déjà dans le deuxième jour. Le premier jour, c'est le jour où Jean le Baptiste annonce que le Seigneur est là. Le deuxième jour, le Seigneur est là. Et vous verrez qu'il y a une suite de jours comme ça, dans l'introduction du ministère de Jésus-Christ au travers du récit de l'évangile de Jean. Alors, on passe au jour suivant, c'est le verset 35, le lendemain, donc là on est déjà au troisième jour. Jean était encore là avec deux de ses disciples, et ayant regardé Jésus qui passait, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivèrent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'il le suivait, il leur dit, « Que cherchez-vous ? » Ils répondirent, « Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu ? » « Venez, leur dit-il, et voyez. » Ils allèrent et ils virent où il demeurait et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la dixième heure. Ici, le troisième jour, on voit les premiers disciples qui vont à la suite du Seigneur. Et ça se fait très rapidement. Il y a deux disciples, c'est les disciples de Jean qui sont là, deux disciples de Jean, et tout très rapidement, Jésus arrive et hop, ils se mettent à la suite du Seigneur. Hein. Ça s'est fait d'une manière extraordinairement rapide. Simplement Jean le Baptiste qui dit « Voici l'agneau de Dieu » et les deux disciples, ils se mettent à la suite du Seigneur et quittent Jean. Pourquoi? Ben, peut-être parce que Jean le Baptiste avait déjà préparé ses disciples. Hein? Il n'avait pas cherché à avoir un ministère pour lui-même et puis s'accaparer les choses et puis « moi je veux garder mes disciples ». Non, il savait qu'il était la voix de celui qui prépare le chemin, la voix qui crie dans le désert. Et il savait que, en fait, il était là juste pour accompagner un bout ces hommes que le Seigneur avait mis sur son chemin, mais qu'ensuite, le but, c'était Jésus. Et nos vies, c'est la même chose aussi. Nous, on est juste là pour accompagner des fois des gens. Et des fois des gens, on accompagne au début peut-être leur conversion. Et puis après, Dieu va les mettre sur un autre chemin ou sur une autre église ou dans une autre direction. Et le Seigneur va faire relais avec quelqu'un d'autre. Là, on est au troisième jour et on voit les premiers disciples qui se mettent à la suite de Jean, à la suite de Jésus. Et un de ces disciples de Jean, qui est devenu disciple de Jésus, était André, frère de Simon. Et en fait, André va inviter Simon pour dire, mais moi je crois qu'on a trouvé celui qui est, on a trouvé le Messie, hein, verset 41, ce qui signifie Christ, et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé, dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Donc là, on voit dans le détail que Pierre devient à son tour le disciple de Jésus-Christ. Comment? Au travers de son frère Simon, André, qui l'a invité à aller à la rencontre du Seigneur. Et nous aussi, des fois, de la même manière, par nos paroles, par nos invitations, on va aussi amener d'autres personnes à rencontrer le Seigneur. Et ça, c'est quelque chose de magnifique que Dieu nous donne de pouvoir faire cette grâce, de pouvoir avoir cette grâce d'accompagner une personne jusque dans la maison du Seigneur. Amen. Donc, on est au troisième jour. Le verset 43 nous amène au quatrième jour. Le lendemain, Jésus voulant se rendre en Galilée, et il rencontra Philippe et lui dit, « Suis-moi. » Le quatrième jour. Un disciple de plus, Philippe. Et Philippe, va rencontrer à son tour Nathanaël. Et il va inviter Nathanaël à venir rencontrer le Seigneur. Et puis, Nathanaël est plutôt prudent. Hein, il dit, mais est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui peut venir de Nazareth? Peut-être qu'il était déçu par les événements, peut-être qu'il était déçu par les hommes. Et puis là, il est prudent. Et des fois, dans nos vies, c'est la même chose aussi. Des fois, on vit des déceptions, des fois, on vit des découragements. Et des fois, on est prudent. Hein. Peut-être le Seigneur, il est là en train d'agir. Peut-être il est là en train de répondre à nos prières. Et puis, parce qu'on a passé par des temps difficiles, alors on avance prudemment. Mais on verra que Dieu, il connaît nos cœurs et il connaissait le cœur de Nathanaël. C'est pas parce que Nathanaël était prudent que malheureusement Nathanaël n'a pas pu croiser le Seigneur. Jean 1, verset 47, je lis. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu ? » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelât et quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois ? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il dit, « en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Quelle belle déclaration Jésus fait par rapport à Nathanaël quand Nathanaël vient à Jésus. Hein. Voici un homme, voici un Israélite en qui il n'y a aucune fraude. Et face à cette déclaration, Nathanaël va dire, mais d'où me connais-tu? Et Jésus lui répondre, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Et ça, c'est une réponse qui va sidérer Nathanaël. Pourquoi? Parce que peut-être juste avant, il était sous le figuier. Le figuier, c'était peut-être l'endroit où on se tenait à l'ombre, il faisait frais hein, pendant la saison chaude. Quand le soleil tapait, les gens peut-être se mettaient sous le figuier pour se reposer, ou bien peut-être pour lire aussi, parce que le figuier, dans la symbolique de l'Antiquité, j'ai lu une note par rapport à ça, il représentait l'arbre de la connaissance. Donc, certainement, Nathanaël, c'était un homme qui était instruit dans les Écritures. Et quand Jésus va lui dire, « Mais je t'ai vu quand tu étais sous le figuier », quelque part, c'est comme s'il disait, « Mais je sais que tu es quelqu'un qui est instruit dans les Écritures. » Et face à cette déclaration, Nathanaël, qui avait certainement son cœur tourné dans les Écritures, c'est comme si Dieu lui parlait à la chose qui était la plus précieuse pour lui, parce qu'il était certainement aussi dans l'attente de ce Messie. Nathanaël va répondre, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Et Jésus de lui répondre, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » En effet, Nathanaël va voir de plus grandes choses que celles-ci parce que Jésus n'est pas simplement un prophète. Là, il a fait le ministre, il a fait un ministère de prophétique, en fait, Jésus, en déclarant qui était Nathanaël. Mais Jésus est plus qu'un prophète, il est le Fils de Dieu, il est le souverain sacrificateur et il est le roi des rois. Et Jésus va donner son premier en vérité, en vérité. Et en vérité, quelle vérité il va dire ici? Vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Et ce passage-là, moi, il me fait penser à un autre passage dans Genèse 28. On fait juste un petit crochet, on revient tout de suite après à l'évangile de Jean. Genèse 28, au verset 12. Genèse 28 au verset 12, où on a un passage parallèle à ce que vient de dire le Seigneur. C'est l'histoire de Jacob qui vient de fuir la maison de ses parents parce qu'il a volé la bénédiction d'Ismaël et puis il va vers Laban. Et dans sa fuite, la première nuit, il a un songe. Genèse 28, verset 12. « Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. » Verset 13. « Voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. » Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Dans sa fuite, en fait, Dieu se révèle à Jacob. Elle lui fait comprendre que la terre où il se trouve, en fait, on peut dire aujourd'hui, c'est la terre d'Israël. Hein, c'est la terre bénie et choisie du Seigneur. Et c'est au travers de cette terre que Dieu allait donner sa bénédiction. Et si on revient à la parole du Seigneur, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme, cela veut dire qu'aujourd'hui la bénédiction, elle passe plus par la terre, mais elle passe par le Fils de l'homme. Aujourd'hui le ciel est ouvert. Et aujourd'hui, l'importance, c'est plus la terre d'Israël. L'importance, c'est le Fils de Dieu. Parce que la bénédiction, elle vient au travers de la nouvelle alliance. Les choses deviennent nouvelles. Et on voit que dans toute cette introduction, on verra encore dans la suite aussi du récit, on passe gentiment à la nouvelle alliance. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de s'inscrire dans l'histoire de l'humanité. En vérité, déclare le Seigneur, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. L'action de Dieu, l'action divine de Dieu au travers des anges, mais aussi au travers du Saint-Esprit. Aujourd'hui, on le sait, hein, celui qui baptise du Saint-Esprit, c'est Jésus. C'est pas une terre, c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit encore aujourd'hui. Et quel accès incroyable on a, parce que ça veut dire aussi que le Seigneur veut nous renouveler aussi, il veut faire de nous le temple du Saint-Esprit, et qu'il veut nous donner sa grâce et sa puissance afin qu'on puisse aller répandre son amour jusque là où il nous enverra. Amen. Donc là, on était dans le quatrième jour. Jean 2, verset 1, « Trois jours après, il eut des noces à Cana en Galilée. » Trois jours après. Donc, quatre jours plus trois, ça fait sept. Bravo, bingo. Sept jours, on est au septième jour. Et sept jours, ça fait penser à quoi? Ça fait penser aussi à la création des cieux et de la terre. Parce qu'en sept jours, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, il y a un parallèle dans l'introduction du ministère de Jésus-Christ qui nous est présenté par l'apôtre Jean, il y a un parallèle entre les 7 jours de la création et les 7 jours du début du ministère de Jésus-Christ. Et vous verrez que ce parallèle, il n'est pas là pour rien. Le récit qui va suivre est celui des noces de Cana. Vous le connaissez, on va le lire. Et on connaît, hein, c'est l'eau transformée en vin. Et c'est pas pour rien qu'il y a ce récit-là qui se produit le 7e jour. Parce que le 7e jour, c'est aussi le jour du repos. Et vous verrez qu'il y a toute une symbolique dans les noces de Cana par rapport au jour du repos. Donc, je lis le récit des noces de Cana. 3 jours après, il eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venant ce vin, tandis que les serviteurs qui avait puisé l'eau, le savait bien. Il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après, qu'on soit enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut en Galilée, à Cana, le premier miracle, le premier des miracles que Jésus fit. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Donc Jésus et ses disciples sont invités à une noce. Cette noce se déroule à Cana en Galilée. Et à un moment dans la fête, le vin vient à manquer. Et Marie, la mère de Jésus, remarque cela. Et elle lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Et Jésus de lui répondre, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » De quelle heure est-ce que Jésus parlait? De l'heure de la croix, mais aussi de l'heure de son retour. Et face à cette réponse-là, Marie va dire au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Et se trouvait présent dans cet endroit de fête, 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs. C'était des vases, hein, dans lesquels on allait mettre de l'eau pour les rites de purification. Et 6, il y a aussi quelque chose de symbolique ici. 6, c'est le chiffre de l'homme. C'est le chiffre qui représente que les choses sont incomplètes. 7 étant le chiffre du Seigneur et le chiffre de la perfection divine. Donc 6, ça représente quelque part comme toute l'histoire de l'humanité. C'est comme pour dire, il va falloir un temps pour l'humanité pour qu'elle soit un jour véritablement, complètement délivrée du péché. D'ailleurs, il y a un parallèle, Jésus a passé aussi 6 heures sur la croix de Golgotha. Pour prendre tous les péchés de l'humanité, il a passé 6 heures. Il y a un parallèle, quelque part, ces jarres, elles nous font penser à l'humanité, à l'histoire de l'humanité, à l'histoire du salut, que Dieu a déclaré qu'il faudra un certain temps pour que véritablement le péché soit définitivement aboli dans l'histoire de l'homme. Il y a un temps pour cela. Et puis, au moment où l'eau s'est transformée en vin, cela indiquait aussi, là on a une indication aussi qu'on est en train de passer dans la nouvelle alliance. Parce que ces jarres qui étaient réservées au rite de purification, s'il y avait un autre liquide de l'eau, eh ben on ne pouvait plus les utiliser, elles étaient considérées comme impures. Donc dès le moment où l'eau s'est transformée en vin dans les jarres, en fait, ces jars n'ont plus jamais été réutilisés pour des rites de purification. Au travers de ce miracle-là, c'est comme si Dieu annonçait déjà, voici les rites de purification, aujourd'hui c'est terminé, ce sera en mon sang. C'est le sang de Jésus qui nous purifie encore aujourd'hui de tout péché. On n'est plus à se laver les mains. Hein. Les catholiques encore, des fois, je crois, ils font. Hein. On voit souvent dans les entrées d'église, il y a toujours un petit endroit où il y a de l'eau. Je ne sais pas ce qu'ils font avec, mais ça ne sert à plus rien. C'est passé. Aujourd'hui, c'est le sang du Christ qui nous purifie. Amen. Il y a quelque chose aussi dans ce miracle-là de symbolique qui annonce la nouvelle alliance en son sang. Tout homme, verset 10, sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. C'est le septième jour. C'est symboliquement aussi le jour du repos. Et là, au travers de cet intendant, de cet ordonnateur du repas, il y a un petit clin d'œil, moi je vois ça en tout cas comme ça, je crois qu'il y a un petit clin d'œil par rapport au jour du repos, au véritable jour du repos qu'on attend. Moi je crois au millénium, hein. Je crois que Jésus-Christ va un jour revenir sur cette terre et il va instaurer un temps de repos pour l'humanité. Et il y a comme un petit clin d'œil. Tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Et je crois que Dieu, il fait la même chose pour l'histoire de l'humanité. Il garde, comme un viticulteur va garder son meilleur vin dans sa cave précieusement parce qu'il sait lequel est bon, lequel va pouvoir encore prendre plus de saveur au travers d'un long stockage dans sa cave. Dieu a gardé pour l'histoire de l'humanité le bon vin. Il a gardé le meilleur pour la fin. Et c'est quoi le meilleur pour la fin? C'est son règne de 1000 ans ici sur cette terre. Et je trouve qu'il y a, dans ce récit de Jean, il y a quelque chose d'extraordinaire, de voir la suite de ces jours, qui a une logique, et que le dernier jour, ça nous annonce aussi, de manière symbolique, de manière un petit peu cachée, mais si on fouille, je crois qu'on trouve, qu'il y a encore le meilleur à venir. Dieu a réservé le meilleur à venir pour l'histoire de l'humanité. Amen. C'est notre espérance. Ça ne veut pas dire qu'on doit rester les bras croisés jusqu'à ce jour-là, hein, parce que si vous lisez la suite de l'évangile de Jean, vous voyez que les disciples ne se sont pas dit, ah ben chouette, on va faire la fête jusqu'à l'avenue du meilleur des vins. Hein. Non, il y a toute une suite, bien sûr. Mais c'est une espérance aussi pour chacune de nos vies. Dieu a gardé le meilleur vin pour la fin. Amen.